Bon, merci. Alors, bon, on va commencer. Alors, vous voyez, la première diapo que je montre, là, c'est Romains 11, 18, hein, qui dit aux chrétiens de Rome, où il y a dans la communauté de Rome, il y a des juifs devenus chrétiens, et il y a des païens devenus chrétiens. Et il y avait peut-être déjà des rivalités, et il dit aux païens, « Ne va pas faire le fier aux dépens des branches. » Si tu veux faire le fier, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Voilà ce qui nous est dit à nous, chrétiens, venus du monde païen. On est tous à peu près, à moi qui ai des racines juives dans la maison, c'est pas dans l'assemblée, c'est pas impossible. Nous sommes portés. Hein, nous sommes portés. Et cette phrase exclut tout échappatoire. On pourrait avoir... se penser les premiers, venus, non. Hein. La racine nous porte, c'est existentiel. Donc ça nous oblige à nous recevoir. Et on dit ça dans une église, dans une chapelle, ça, c'est pas du tout contradictoire, au contraire, c'est le lieu où on peut écouter, justement. Écouter cette parole que l'on reçoit, eh bien, cette racine. Alors, on sait très bien que pendant des siècles, j'y ferai allusion, on n'a pas vraiment honoré ce conseil, hein, cette racine qui est la tradition juive, qui est le peuple juif dans son ensemble, on peut dire, au bout du compte. Hein. Finalement, c'est ça. Nous sommes portés, nous sommes en dépendance d'eux. Voilà. Alors, bien sûr, tout le monde sait qu'il y a eu un immense renouveau dans l'Église en général, chez les protestants, chez nous aussi, et chez nous aussi, ce qui a marqué, chez les cathos, les catholiques, ce qui a marqué, c'est évidemment le Concile Vatican II. Et il y a un paragraphe, là, le paragraphe numéro 4, qui commence par les paroles que vous avez donc sous les yeux, avec l'écran, hein, qui va montrer ce changement de comportement. Scrutant le mystère de l'Église, le Concile rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament avec la lignée d'Abraham. Alors, scrutant, on s'intéresse, on regarde quoi ? Un mystère. Ah, un mystère, voilà, qui va être sujet d'une exploration sans fin, puisque c'est un mystère. Mais une exploration, un mystère qui est fait pour nous, dans lequel on doit se trouver bien, mais avec constamment des interrogations permanentes, puisque c'est un mystère qui nous amène toujours à plus. C'est le mystère de l'Église. Ah, nous sommes des chrétiens, nous sommes d'Église. Quelque chose qui nous fait vivre, c'est pour ça qu'on se retrouve ici. Donc, on s'interroge sur ce qui nous concerne, sur ce qui nous fait vivre. Alors, qui est-ce qui scrute ce mystère de l'Église ? C'est le Concile. Bon, le Concile, c'était l'ensemble des évêques, là, mille et quelque chose, qui sont là, mais c'est aussi, finalement, tous ceux qui sont portés. Que tous ceux qui portent ces pères de l'Église, c'est l'Église, c'est les chrétiens. Hein? Alors, le Concile se rappelle, il fait un acte de mémoire, pas perdre la mémoire, d'où est-ce que nous venons ? D'où est-ce que nous venons ? Voilà, oui, ça rappelle. Rappelle un lien. Alors, un lien, ça peut avoir plusieurs sens, mais c'est quelque chose aussi qui nous ficelle, qui nous oblige, qui nous met en dépendance. On est tenu par un lien, ce lien qui relie, justement, qui nous relie à autre chose. Ce lien qui nous relie, il est spirituel. C'est pas simplement une relation à des antécédents dont nous venons, d'une tradition et tout ça, historiquement, c'est ça. Non, c'est spirituel. Donc ça a une densité d'être plus que le matériel, on peut dire. Hein. C'est quelque chose de profond et de vrai. Hein. Un lien spirituel qui relie quoi ? Le peuple du Nouveau Testament, donc nous autres baptisés, hein, chrétiens. C'est évidemment, c'est dans le monde catholique qu'on qu'on s'explique ça, qu'on repense ça, mais en fait, c'est pour tous les chrétiens, hein, bien sûr, qui nous relie avec quoi ? Avec la lignée d'Abraham. Alors, il y a Abraham, idée des origines premières, du début de cette immense tradition qui nous porte, Abraham, qu'on, historiquement, il y a toujours des débats, qui était Abraham ? Alors là, un point de vue historique, hein, il y a beaucoup de traditions sur Abraham, évidemment, qu'on a imaginé, qu'on a redit après, mais enfin, qu'est-ce que c'est qu'Abraham, les origines ? En tout cas, il y a des origines, il y a un commencement. Il y a un commencement, oui, c'est vrai, un peu sombre, ténébreux peut-être, mais qui nous relie avec la lignée d'Abraham, donc avec toute la descendance de ce peuple. La descendance, c'est toute une descendance qui jaillit d'Abraham, qui jaillit en français une promesse magnifique, en toi seront bénies les nations, etc., quelque chose d'universel. Voilà, donc ce concile Vatican II, vous voyez, nous met en relation. Cette phrase de Paul nous situe en vérité, ce n'est pas toi qui portes la racine, ne te prends pas pour la base, ne te prends pas pour l'essentiel, tu es ouvert à un mystère. Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, dit saint Paul un peu plus loin, dans l'épître aux Romains. Alors, c'est un changement très profond qui a été inauguré, disons, avec le Concile Vatican II, mais évidemment, il y a eu des prédécesseurs. Hein, ça germait progressivement. Mais surtout, il y a eu des siècles de rejet, hein, le temps du rejet. Et là, je vais donner un petit extrait du livre de Jules Isaac, hein, qui a écrit entre 1943 et 1946 « Jésus et Israël ». C'était un juif, pour les plus âgés d'entre nous, qui ont eu des cours d'histoire, peut-être qui se rappelle ce livre d'histoire, ça doit être Malais et Isaac, je ne sais pas. Ça en rappelle quelques-uns. Il était donc, il était dans l'éducation nationale, une place... comment ?
Inspecteur
général, oui, merci, ça, voilà, tout ça. Eh bien, pendant la guerre, où il écrit ce livre, sa femme, sa fille et son fils ont été déportés. Seul le fils est revenu. Il paraît, on dit que sa femme, dans le train qu'il emportait à Auschwitz, elle a glissé un billet en disant à son fils, à Jules, Isaac, son mari, « Mon ami, poursuivez l'œuvre que vous avez à faire. » Il l'a fait en écrivant ce livre entre 1943 et 1946, et il fait plusieurs propositions, dont l'une, la 15e, hein, « Est-ce que le Christ a condamné son peuple ?» Eh bien non, il relie l'Écriture, alors qu'il n'est même pas croyant, mais il croit à sa tradition d'une certaine manière. Il relie l'Écriture, et alors je vous donne simplement un tout petit extrait ici, hein, que vous avez sur le panneau, là, sur l'écran. « Puisque le peuple juif de Palestine, dans la mesure où il l'a connu, ne l'a connu que comme prophète, parle de Jésus, hein, que comme prophète, puisqu'il l'a écouté, suivi et admiré comme tel, suivi et admiré, écouté, on ne peut pas légitimement soutenir que le peuple juif ait rejeté Jésus. » À plus forte raison qu'il ait rejeté Jésus, en Jésus, le Messie, le vrai Fils de Dieu. Maintenant, doit se poser la question, le peuple juif a-t-il été rejeté par Jésus ? Et donc, pour tout croyant, par Dieu ? Eh bien, je dis simplement la phrase suivante, mais à cette question, nombreux sont les théologiens de toute confession, catholiques ou protestants, qui répondent sans hésitation « oui ». Donc Dieu, on a dit, enseigné que Dieu a rejeté le peuple juif. Alors, on en vient justement au temps du rejet. Bon, c'est ici Jules Isaac, voilà. Donc la trompe, on est un peu plus loin. Ce temps du rejet qui a duré des siècles, alors évidemment on va passer à pieds joints dessus, hein. Pas le temps de toutes les voir. Voilà. Je prends ici, vous voyez, simple, c'est des flashs, hein, simplement, dans une histoire de ce qui dure des siècles. Justin, hein, le philosophe Justin, chrétien, qui écrit au IIe siècle, hein, un dialogue avec un juif théorique, en tout cas. Hein. Bon, entre, je relève cette phrase, et écrit le Justin, qui deviendra martyr, qui est philosophe, « La race israélite véritable, c'est nous. » Bon, c'est clair. La race israélite véritable, c'est nous. Donc, c'est pour vous. Voyez. Et puis, une sorte de collègue, un évêque de Sardes, Méliton, qui écrit sur la Pâque, alors, voilà. De même que la figure est rendue vaine lorsqu'elle a transmis son image à ce qui existe vraiment, dans la figure, tout ce qui annonce, puis avec ce qui va se réaliser dans l'annonce, et que la parabole est rendue vaine lorsqu'elle est éclairée par l'interprétation, ainsi aussi la loi fut terminée lorsque l'évangile fut mis en lumière. La tradition juive de la loi terminée lorsque l'évangile est mis en lumière. Et le peuple d'Israël perdit sa raison d'être. J'ai pris la peine de l'écrire en grec parce que hein, il a été vidé de lui-même. D'ailleurs, on dit ça du Christ dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2. Hein, le Christ étant de nature divine, ne retient pas comme une proie le fait d'être égal à Dieu, mais il s'est vidé de lui-même. Il y a deux anéantissements là, hein, mais le peuple juif qui n'a plus rien est le Christ. Bon. Voilà. Alors, continuons dans cette liste. Là, je les saute beaucoup parce que de toute façon, ça serait trop long, on a peu de temps. Toute une histoire de l'antisémitisme, je vous assure qu'on n'en sort pas. On n'en sort pas indemne, intact, une fois qu'on a vraiment étudié, lu ce que les Juifs savent très bien, et que nous, on sait beaucoup moins, parce qu'on nous l'a moins enseigné, mais qui est pourtant bien vrai. Alors, j'en viens à un des grands maîtres de notre tradition, c'est Augustin. Augustin qui parle beaucoup des Juifs, dans un texte dans son discours sur les psaumes, j'ai noté à peu près 380 allusions ou mentions sur des juifs dans ces textes-là. Donc il en parle, ça l'occupe continuellement, il en parle toujours. Alors voilà comment il se représente, nos amis juifs, un apport doctrinal hein, de saint Augustin au IVe siècle, oui, enfin autour des années 400 finalement. Hein. Ceux qui ont foulé Jésus aux pieds, Dieu les a voués à l'opprobre. Il leur a enlevé leur pays, leur ville sainte, il les a dispersés. Ça, c'est des preuves, ça. Juifs, ils n'existent plus que pour porter nos livres. Ah, on a besoin de ces livres, tiens. Pour leur propre confusion. Pour leur propre confusion. Quel opprobre, mes frères, quel opprobre. Le livre que porte le juif est le fondement de la foi du chrétien. Le livre, ils sont devenus nos porte-livres à la manière de ces esclaves qui marchent derrière le maître en portant ses livres. Le livre est un peu encombrant. Lui, l'esclave, il ne peut pas le lire, il ne le connaît pas, mais le maître connaît le livre. Quel opprobre, mes frères. Voyez. Donc, on situe l'Égypte. D'abord, on en a besoin. Je pense que même dans les pires moments de l'antijudaïsme, personne ne dit qu'il faut qu'ils disparaissent. Ça, ce sera les nazis qui le diront. Mais ils sont inférieurs, ils n'ont pas compris, et nous sommes au-dessus, nous les dominons. Et on verra que saint Augustin a été écouté, il y a eu, si vous voulez, il a eu une sorte de théorie, d'idéologie hein, de la relation. Alors, venons-en au XVIIe siècle, avec Pascal, étant nécessaire pour la preuve de Jésus-Christ et que le peuple juif subsiste pour le prouver, qu'il subsiste pour le prouver, et qu'il soit misérable puisqu'ils l'ont crucifié. Ça leur retombe dessus à tous. C'est normal qu'ils soient misérables. Donc, s'ils sont dans une situation inférieure, dominée et tout ça, il n'y a pas de problème. Bossuet, un sermon sur la bonté et la rigueur de Dieu. Enfin, la rigueur aussi. Par ce profond conseil de Dieu, les Juifs subsistent encore au milieu des nations où ils sont dispersés et captifs. Mais ils subsistent avec le caractère de leur réprobation, déchus visiblement par leur infidélité des promesses faites à leur père, c'est donc bien de leur faute, bannis de la terre promise, n'ayant même aucune terre à cultiver, esclaves partout où ils sont, sans honneur, sans liberté, sans figure de peuple, sans figure de peuple, Dieu conserve les Juifs afin de faire durer l'exemple de sa vengeance. Alors, je vois que vous êtes d'accord, c'est bien. Voilà.